France Info.
Comment les marques, les personnalités nous parlent-elles? Quelles histoires nous racontent-elles pour nous convaincre? Les anglo-saxons appellent cela le storytelling. Et ce soir, dans Storytelling, on décrypte la communication de Renault. Renault dans la tourmente du Dieselgate. Renault soupçonné par la répression des fraudes d'avoir faussé les tests d'homologation de certains de ses moteurs diesel. On en parle avec Delphine Le Goff. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Jérôme.
De notre partenaire le magazine Stratégie et Benjamin Cuc. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous avez publié en 2013, le livre noir de Renault. D'abord, Delphine, la réaction de Renault à cette affaire, à ces accusations?
Alors, dans un premier temps, chez Renault, on a plutôt joué le jeu du no comment. Mais là, comme les dirigeants, dont Carlos Ghosn, commencent à être mis en cause directement, vendredi matin, le numéro 2 de Renault, Thierry Bolloré, a décidé de s'exprimer dans une longue interview au Parisien, où il déclare que l'entreprise Renault est profondément blessée. Il y affirme « Nous ne trichons pas, nous ne trompons pas nos clients ». Et il en profite pour tacler au passage un concurrent. Nous ne sommes en rien comparables à un autre constructeur qui a eu un comportement inacceptable qui a affecté l'ensemble de notre industrie. Bah alors là, pas besoin d'être un grand expert pour deviner que l'attaque vise Volkswagen.
Voilà, donc c'est une contre-attaque en règle. Il y a 2 ans, c'était effectivement Volkswagen qui était accusé de fraude électronique aux émissions polluantes de ses moteurs diesel.
Oui, alors à l'époque, le constructeur allemand avait choisi de reconnaître ses torts et de faire un mea culpa. Volkswagen avait décidé de marquer le coup avec un geste fort, puisque le patron du groupe, Martin Winterkorn, avait été limogé pour être remplacé par Matthias Müller. Alors, ce qu'avait décidé Matthias Müller, c'était de supprimer la campagne Das Auto, la voiture, un slogan qui paraissait arrogant et même carrément déplacé dans le contexte. Alors aujourd'hui, les consommateurs ne semblent plus en vouloir à Volkswagen, ou en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont la mémoire courte, puisque le groupe a réalisé en 2016 une année record. Il s'est même placé contre toute attente à la première position mondiale devant Toyota.
Voilà, donc la com' de Volkswagen avait été plutôt efficace. Pour Renault, c'est une affaire qui tombe mal en termes d'image.
Oui, ça tombe mal en termes d'image parce qu'elle tombe pile une semaine après un événement plutôt important et d'ailleurs aussi plutôt heureux pour le groupe. Le 7 mars, Renault présentait la nouvelle Alpine au salon de Genève. Alors le retour de la mythique berlinette était attendu fiévreusement par des milliers de fans et représentait un excellent facteur d'image, de glamour pour le constructeur. Renault avait par ailleurs annoncé en janvier des résultats records, un chiffre d'affaires de 51 milliards d'euros. Là maintenant, si le Renault Gate se confirme, le constructeur risque une amende de 3,5 milliards d'euros et bien sûr une image sérieusement écornée.
Alors l'image de Renault a déjà été mise à mal par plusieurs polémiques ces dernières années. Benjamin Cuc, je rappelle les suicides de salariés au technocentre de Guyancourt, c'était il y a une dizaine d'années. La rémunération de son PDG Carlos Ghosn également. Comment Renault communique de manière générale lorsque le groupe est mis en cause?
Ça dépend, en fait, ça dépend des événements. Parfois très bien, parfois très mal. Renault Vilvoorde avec une communication lamentable de Louis Schweitzer à l'époque. Dans le même mouvement, on peut dire qu'il y a eu la communication tout aussi lamentable de l'affaire des régulateurs de vitesse ou l'arrestation du journaliste d'Autoplus Bruno Thomas qui avait publié des photos de la Renault Wind qui a pas en plus été un énorme succès de Renault. Par contre, il y a eu d'énormes point de communication, c'était le rachat de Nissan. Quand Renault a racheté Nissan, ça s'est passé comme ça à la poste. Et Renault est passé vraiment pour un champion de l'automobile mondiale et Carlos Ghosn pour un fin stratège. Sur le salaire de Carlos Ghosn, paradoxalement, le grand public l'a assez bien accepté. On a assez bien accepté le salaire de Carlos Ghosn, même si c'était 15 millions par an, ça a été assez bien accepté parce que Renault marche, Renault fait du bénéfice et Renault c'est la France, donc un salaire de champion pour un champion mondial, pourquoi pas, les Français l'ont bizarrement accepté. Il y a une communication douce qui passe parfois bien plus facilement que quand c'est une communication de crise sur des événements. Et la communication douce qui passe de manière assez linéaire sur des événements de la vie de Renault passe assez bien. Quand il y a des grosses crises qui mettent plus en danger la vie des gens comme le régulateur de vitesse, là ça passe pas. Et en ne réagissant pas plus que ça, Renault fait glisser l'histoire.
C'est pour vous le choix de Renault, c'est-à-dire de pas surréagir pour ne pas donner trop d'ampleur à cette affaire?
Exactement, ne pas surréagir, c'est l'assurance qu'on ne va pas les titiller. Moins on en parle, moins on réagit.
Merci à vous Benjamin Cuc pour cet éclairage ce soir sur France Info. Donc je rappelle que vous avez publié en 2013 le livre noir de Renault. Merci également à Delphine Le Goff de notre partenaire, le magazine magazine Stratégie. Vous retrouvez Storytelling sur franceinfo.fr. Bonne soirée à vous.